Ce qui au départ a motivé cet épisode, c'est une information, celle de l'ouverture par l'ONG Reporters sans frontières d'un centre pour la protection et le soutien des journalistes. Un lieu dédié en priorité à ceux qui couvrent la guerre à Gaza et au Liban. C'est Laure Stéphan, l'une des correspondantes de RFI dans le pays, que j'ai appelée pour en savoir plus. Notre discussion a très vite dérivé sur la situation dans le sud du Liban, à la frontière avec Israël. Laure s'était rendue dans cette zone au début de l'année 2024. Parce que l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023 et la guerre de représailles qui se poursuit a réveillé un autre conflit, celui qui oppose le Hezbollah libanais, solidaire de la cause palestinienne, à l'armée israélienne. De tout cela, nous avons convenu de discuter avec Laure dans cet épisode, un épisode que nous avons enregistré le 1er avril. Depuis 2019, le Liban est plongé dans une crise économique sans précédent. La monnaie locale, la livre libanaise, a quasiment perdu toute sa valeur. L'inflation est à trois chiffres et l'appauvrissement des familles devient général. Mais cette situation, depuis la guerre à Gaza, ne vient plus comme une priorité dans les conversations. C'est aussi ce que m'a confié Laure. Manifester son mécontentement contre les restrictions bancaires, par exemple, paraît incongru au regard aussi de ce que vivent les Gazaouis et les Libanais des villages transfrontaliers avec Israël. Bonjour Laure.
Bonjour Alexandra.
Alors j'espère ne pas avoir trahi tes propos en disant que la guerre à Gaza avait occulté la situation économique libanaise, mais c'est vrai que vu de loin, cela peut paraître étrange, ça traduit quoi de la peur, de la retenue ?
En fait, je pense qu'on est dans un pays où les priorités changent tout le temps, au jour le jour. C'est une réalité qui est assez ancienne. C'est une réalité aussi qu'on voit depuis la crise économique dont tu as parlé, qui a commencé donc en 2019. Par exemple, quand il y a eu l'explosion au port, eh bien, clairement, on était tous submergés par ce qui s'était passé, concentrés sur cette explosion.
Le 4 août 2020, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient stockées dans un hangar ont explosé et détruit une grande partie du port de Beyrouth. 235 personnes ont trouvé la mort, 6500 ont été blessées.
Et une priorité qui vient percuter une autre, c'est vraiment le quotidien des Libanais. En ce moment, on n'est plus dans la vague de panique qu'il y a eu juste après le 7 octobre. Il y avait eu à ce moment-là aussi beaucoup d'ambassades étrangères qui avaient appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Donc ça nourrissait beaucoup d'inquiétudes. Mais clairement, les Libanais suivent les nouvelles, voient que les frappes s'étendent. Et donc il y a tout le temps le spectre d'une aggravation qui plane sur le pays. Et puis, autre chose qui me frappe par rapport à Gaza, c'est que même des personnes qui ne sont pas nécessairement très tournées vers ce qui se passe dans les territoires palestiniens, des personnes de toutes les tendances politiques, sont sidérées, dégoûtées par l'ampleur et la brutalité de la guerre qui se joue là-bas. Et donc, il y a ça aussi. Il y a quelque part, on allume la télévision le soir pour suivre les nouvelles. On voit toujours des images de Gaza. On voit des enfants blessés dans les hôpitaux qui crient. C'est des images qui sont diffusées, notamment par Al Jazeera. Et donc, ça crée en fait une attention permanente à ce qui se passe à Gaza, avec de nouveau l'idée que ce qui se passe à Gaza pourrait donner lieu à une guerre beaucoup plus grande que celle qu'on voit aujourd'hui. Et donc, c'est une sorte de tension permanente. J'ai aussi envie de te dire que par rapport à la crise économique, elle est pas oubliée, hein, elle reste extrêmement présente. Quand on va au supermarché, on se rend compte systématiquement que les prix sont en train d'augmenter. Et il y a clairement toute une partie de la population qui est privée, hein, de beaucoup de choses qu'elle pouvait avoir auparavant. Mais il y a aussi des mécanismes d'adaptation qui sont mis en place, par exemple des pères de famille qui sont partis travailler à l'étranger pour envoyer de l'argent à leur famille, des aides qu'on peut se procurer ici et là. Et donc, quelque part, il y a une crise qui est terrible et en même temps une crise avec laquelle on est contraint de vivre.
Laure, moi je disais en introduction que toi tu t'étais rendue dans le sud du Liban au début de l'année, dans la ville de Tyr, je crois. Alors cette ville, elle est située où et qu'est-ce qu'il s'y passe exactement ?
Alors Tyr, c'est la deuxième grande ville du sud du Liban, c'est une ville qui est située sur la mer. Et c'est une ville qui est d'ordinaire plutôt connue pour voilà l'activité touristique, les restaurants de poissons, la mer, etc. Mais bon, tu peux imaginer que le tourisme en ce moment, il y en a pas beaucoup parce que Tyr reste une ville calme, mais les combats sont tout proches. On les entend parfois, m'avait dit des habitants de Tyr, même si moi je n'en avais pas entendu à ce moment-là.
On est à combien de kilomètres à peu près de la zone frontalière ?
On est à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Je voulais te donner un exemple. Il y avait une frappe par drone qui a eu lieu vendredi dernier et ça c'était à quelques kilomètres de Tyr dans une localité qui est toute proche. Donc quelque part, Tyr reste calme mais est entouré de violence. C'est un endroit où donc des habitants en fait sont partis au tout début quand les combats ont commencé à la frontière. Ils sont partis parce qu'ils avaient peur que la violence arrive à Tyr. Ils sont revenus mais ils ont bien conscience de la fragilité de la situation. Et en même temps, parce que c'est une grande ville, parce que des écoles ont ouvert leurs portes pour accueillir des déplacés et parce que ça reste préservé, il y a beaucoup de déplacés qui sont venus à Tyr. C'est pas le seul endroit, mais c'est quand même un des pôles d'accueil des réfugiés. Et donc, voilà, on parle d'à peu près 90 000 personnes du sud du Liban qui ont dû quitter leur maison. Ils sont parfois encore présents dans d'autres villages du sud qu'ils jugent plus sécurisés. Ils vont là-bas parce qu'ils ont de la famille. Mais voilà, Tyr, c'est la possibilité d'être un peu plus serein. Et puis on voit là-bas en fait aussi des mécanismes qui se mettent en place. J'avais rencontré une famille qui avait d'abord loué un petit appartement à Tyr et puis qui a dû venir à l'école donc au mois de février parce que en fait ils avaient plus d'argent pour louer. Je crois que ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans les paroles des déplacés, c'est qu'ils pensaient partir pour quelques jours et en fait maintenant ça fait presque 6 mois qu'ils ont dû quitter leur maison.
6 mois parce que tout cela, et on a un peu tendance à l'oublier, ça a débuté juste après l'attaque du 7 octobre du Hamas sur Israël. Alors c'est vrai que moi, des dépêches de l'AFP, l'agence France Presse, j'en vois passer quasi quotidiennement, qui annoncent des tirs, qui relatent de ce qui se passe à la frontière sud. Et ce que l'on a un peu du mal à comprendre, c'est au fond, est-ce que l'on est dans une guerre totale ou une guerre sporadique ?
Alors en fait, les combats ont commencé dès le 8 octobre. C'est le Hezbollah qui a annoncé avoir lancé une attaque. Il l'a fait contre des territoires contestés qui s'appellent les fermes de Sheba. Donc quelque part, il était en train de dire qu'à la fois, il était solidaire, il ouvrait un autre front, ce qu'il appelle un front de soutien par rapport à Gaza. Et en même temps, il frappait une zone qui n'est pas le cœur d'Israël. Donc il était en train de dire qu'il ne voulait pas une escalade. C'est un petit peu le message. On a appris après que par la presse américaine, qui a publié des révélations de l'administration de Washington, que les Américains avaient fait une pression très forte sur les Israéliens qui eux-mêmes voulaient ouvrir une guerre contre le Hezbollah pour ne pas avoir une deuxième attaque sur le modèle de ce qu'avait fait le Hamas. En tout cas, on est maintenant aujourd'hui dans une violence qui est quotidienne. Tous les jours, il y a des frappes de part et d'autre. Et ça, c'est depuis le 8 octobre. Est-ce que c'est une guerre totale ou une guerre sporadique ? Je pense que pour les gens du Sud, c'est une guerre totale. Pour les déplacés, si tu parles avec eux, eux, ils n'ont plus accès à leur maison. Ils y sont retournés quand il y a eu une trêve très courte, c'était l'hiver dernier. Ils ont vu aussi l'étendue des dégâts. Une partie d'entre eux sont des agriculteurs. Ils ont perdu des animaux. Il y a des armes au phosphore qui ont été utilisées. Ils savent aussi que leurs cultures vont être contaminées. Les armes au phosphore, elles ont été jetées par l'armée israélienne. Il y a des enfants qui sont plus scolarisés du tout parmi les déplacés. Donc, pour les déplacés, c'est une guerre totale. Un médecin avec qui je parle régulièrement, lui, il dit, il se rappelle de 2006, donc il dit c'est pas 2006, il peut encore se déplacer, c'est dangereux. On n'est pas dans l'intensité de ce qui se passait en 2006.
Le 12 juillet 2006, le Hezbollah attaque l'armée israélienne qui riposte par une vague de bombardements. Cette guerre va durer 1 mois, mais le cessez-le-feu reste fragile.
Mais n'empêche, tu as une région qui est totalement paralysée. Et j'aime bien cette anecdote que je te raconte. C'était une sœur que je rencontrais, une religieuse. Là, je faisais un sujet pour la radio sur Pâques. Et elle disait, en fait, mais il y a des bombes tout le temps au Liban. On ne les voit pas depuis Beyrouth, mais il y a des bombes. Il y a la guerre qui est déjà là. Et je crois que c'est ça. C'est une guerre qui est un peu invisible à Beyrouth, même s'il y a toute la tension dont on a parlé au début, mais une guerre qui, dans le sud, est une réalité au jour le jour.
Et pourtant, on en parle beaucoup moins dans les médias, beaucoup moins que la guerre à Gaza. Alors évidemment, les chiffres, ce ne sont pas les mêmes, hein, même si tu disais 80, 90 000 déplacés, c'est quand même conséquent. Si on prend le nombre de morts, je crois qu'on est à peu près à 350 personnes tuées dans le sud du Liban. Au regard des chiffres à Gaza, évidemment, on n'est pas sur le même plan. Mais comment tu expliques que ce qui se passe dans le sud, on en parle moins ?
Écoute, je pense que c'est ce que tu dis, c'est que le centre de gravité reste quand même à Gaza. On n'est pas du tout sur les mêmes bilans humains par rapport aux 350 morts. C'est une majorité de combattants, même si on parle d'au moins 68 civils hein, qui ont été tués. Mais voilà, ça reste deux réalités qui sont incomparables. Et puis je crois qu'il y a aussi un petit peu la difficulté à chroniquer les échanges de tirs, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quelque part aussi un affrontement entre l'armée israélienne et le Hezbollah qui se mesurent, qui se mettent en garde. C'est quelque chose qui est assez difficile à raconter parce qu'il n'y a pas... il y a eu des escalades, mais on reste dans quelque chose qui est assez répétitif, entre guillemets, même si on a vu côté libanais une extension hein, des endroits qui sont frappés. Il y a eu des frappes notamment sur la Beka. C'est dans l'est du Liban, c'est pas le sud. Et donc, quelque part, le territoire se réduit. Mais de nouveau, c'est pas évident de chroniquer ces échanges de tirs. Il y a aussi le fait que les villages se sont vidés. Donc, tu n'as pas facilement des témoignages dans cette zone. Et puis, c'est un endroit qui est très, très dangereux. Il y a 3 journalistes libanais qui ont été tués depuis octobre. Une autre qui a été grièvement blessée, une journaliste de l'AFP. Les autres travaillaient, l'un qui a été tué travaillait pour Reuters. Et 2 autres travaillaient pour la chaîne Al-Mayadin, qui est une chaîne libanaise.
Issam Abdallah, le journaliste de Reuters, a été tué le 13 octobre, soit 5 jours après le début des combats. La FINUL, la force des Nations Unies au Liban, a conclu qu'il avait été victime d'une frappe israélienne. Les 2 autres reporters ont été tués au mois de novembre. Les autorités libanaises rendent l'armée israélienne responsable de leur mort.
Aujourd'hui, en fait, dans le sud, c'est essentiellement les journalistes libanais qui sont présents sur place parce qu'ils racontent, eux, à leurs médias, justement, ils chroniquent cette guerre. Et il y a une journaliste qui m'a dit cette chose-là. Elle m'a dit « Moi, je veux être présente parce que je considère que c'est très important qu'il y ait une version de chaque côté. » Pour raconter une guerre, elle ne peut pas être couverte seulement d'un endroit.
Alors, tu me tends une perche, évidemment, Laure, puisque au départ, quand on s'est appelé pour faire cet épisode, je voulais en savoir plus sur ce hub, ce centre qui a été ouvert à Beyrouth, la capitale libanaise, par Reporters sans frontières, un centre pour la protection et le soutien des journalistes. Alors, c'est tout récent. De quoi il s'agit ?
Effectivement, c'est tout récent, ça a ouvert le 21 mars, donc il y a une dizaine de jours. C'est Reporters sans frontières qui lance ce centre avec une fondation qui s'appelle la Fondation Samir Kassir, qui est très présente au Liban sur la défense de la liberté de la presse, la liberté d'opinion, et qui fait aussi des formations au premier secours ou au terrain de conflit pour les journalistes. Et donc ce centre, en fait, il va reprendre un petit peu ses idées. Ça doit être un endroit qui va offrir du soutien logistique aux journalistes, qui va proposer aussi des formations de nouveau au terrain dangereux et proposer du soutien psychologique. Et il s'ouvre au Liban, même si c'est pas nécessairement le Liban l'endroit le qui permet l'accès le plus facile vers Gaza, mais il s'ouvre au Liban parce que le Liban, c'est un endroit où reste une liberté d'opinion et de la presse forte, et en tout cas sans comparaison avec d'autres pays de la région.
Ce que j'ai du mal à comprendre, Laure, c'est à quel journaliste et pour quel journaliste s'adresse ce centre ?
Alors en fait, il s'adresse aux journalistes de la région et puis aux journalistes dans la région. Donc les journalistes de la région, pour l'instant, ça va être beaucoup les journalistes libanais qui sont susceptibles d'être intéressés par ce que peut proposer ce centre. Et donc quand il y a eu l'ouverture, il y avait Carmen Jouhadar qui était présente. Elle, c'est la correspondante d'Al Jazeera au Liban. Elle a été blessée. Et elle est retournée dans le sud et elle a raconté à ce moment-là qu'elle est stupéfaite que pas mal de ses collègues aient des protections, en fait des gilets pare-balles qui sont hyper légers, des casques qui suivent pas les critères de sécurité nécessaires, etc. Donc voilà, c'est les journalistes libanais vont pouvoir peut-être avoir une meilleure protection à travers ce centre. Et puis, il peut y avoir aussi plein de freelances étrangers hein, qui passent par le Liban et qui n'ont pas des rédactions qui assurent leur protection et donc qui peuvent être aussi intéressés de se tourner vers ce centre. Le ministre de l'Information nous a dit qu'il y avait plus de 300 journalistes étrangers qui avaient fait des demandes pour couvrir le Sud depuis octobre.
Donc en fait, dans ce lieu, il trouve bon, à la fois une présence humaine, évidemment, et puis de quoi assurer leur sécurité, une formation aussi éventuellement pour se rendre sur des terrains difficiles.
Oui, dans ce lieu, ils vont trouver dans l'immédiat du matériel de protection, des gilets pare-balles, des casques qu'ils peuvent emprunter. C'est un lieu de travail aussi où ils peuvent venir s'installer. Et puis comme on le disait, il y a l'idée aussi d'offrir du soutien psychologique parce que quand on couvre des conflits, c'est quelque chose qui est remue, qui secoue, et donc il y a parfois la nécessité de pouvoir raconter qu'on a besoin de s'arrêter et de pouvoir raconter ce qui choque.
Je lisais aussi dans la presse que l'idée, c'était aussi de pouvoir aider les journalistes de Gaza. Alors ça, j'ai un peu plus de mal à comprendre comment ça peut se passer concrètement, puisque aujourd'hui, comme la plupart des Gazaouis, les journalistes, c'est compliqué pour eux de sortir du territoire.
Oui, absolument. Alors, le Reporters sans frontières fournit ou essaye de fournir de l'aide aux journalistes de Gaza, mais ça, pour l'instant, ça se passe pas depuis le Liban, ça se passe depuis l'Égypte, depuis le poste frontière de Rafah. Jonathan Darer, qui était présent, qui s'occupe du Moyen-Orient à RSF, a expliqué que c'était très difficile, mais qu'ils ont essayé de faire entrer un petit peu des choses, notamment du matériel de protection, qu'ils avaient aidé aussi à faire des abris pour les journalistes, des tentes. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué. Alors, RSF, ils sont sur du plaidoyer pour protéger les journalistes palestiniens, pour ouvrir les portes de Gaza. Et il y a cette idée que peut-être à un moment ces portes vont s'ouvrir, puisque aujourd'hui donc l'armée israélienne n'autorise pas les journalistes étrangers à rentrer à Gaza, à moins qu'ils soient embedded, ça veut dire qu'ils soient en train de l'accompagner, mais c'est le seul accès qui soit possible. Mais c'est une réalité qui pourrait changer, et dans ce cas-là, le hub, ce centre dont on parlait, aurait peut-être un rôle à jouer, dans le sens où il y aurait des journalistes qui partiraient depuis le Liban vers l'Égypte. Et le raisonnement de RSF, c'est qu'une fois que le matériel de protection est dans la région, il est plus facile de l'acheminer vers des terrains de conflit proches, puisqu'on a déjà en partie résolu les questions d'autorisation. En tout cas, il y a moins d'autorisation dont il faut obtenir. Donc il y a cette idée de pouvoir être un hub qui servirait à Gaza et peut-être un hub aussi pour toute la région, pour d'autres terrains de conflit quand ce serait nécessaire.
Et à Gaza, plus d'une centaine de journalistes ont trouvé la mort depuis le début des combats, 22 selon Reporters sans frontières, dans l'exercice de leur métier. Merci Laure d'être passée dans Témoins d'actu.
Merci Alexandra.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'appli Pure Radio de RFI. À très vite.